Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai une de diplomatie au plus grand âge. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtriser les gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre émission 100% interactive. Ce vendredi 26 août 2011, nous revenons dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Depuis le mois de juin dernier, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a autorisé 14 établissements de l'enseignement supérieur à organiser les études de troisième cycle d'une manière expérimentale pour une durée de 5 ans. L'objectif est d'assurer la relève dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. On se rappellera qu'il y a une année, le ministre de tutelle avait pris la décision suspendant l'organisation des écoles doctorales dans quelques établissements du secteur ici à Kinshasa, ainsi que leurs extensions en province pour cause de non-respect des normes régissant l'organisation des études du troisième cycle. Que pensez-vous de la décision d'organiser le troisième cycle dans quelques établissements à travers le pays? Nous recevons dans ce studio le professeur Pierre Kita, conseiller académique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Marie-Chantal Lumba et Kimputu sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Mimi Kindou, supervisée par Léonard Moulamba et Pierrot et la Mégie vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur le sujet du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 2h, et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
Que pensez-vous de la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire d'organiser les troisième cycles dans 14 institutions de ce secteur que nous aurons la liste vous sera donnée hein, pour savoir quelles sont les institutions qui sont concernées par cette décision. Appelez-nous au 081-890-69-69 pour votre point de vue, votre question, votre intervention. Vous pouvez également le faire par SMS au 081-684-7307, hein, par SMS 081-684-7307, mais aussi par Internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Professeur Pierre Kita, bonjour.
Bonjour.
On était avec vous, je crois bien, le vendredi.
Il y a deux semaines.
Voilà, il y a deux semaines, hein, nous avons... C'est dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Aujourd'hui, on parle de troisième cycle. Mais bien avant que nous puissions parler de la décision actuelle, faisons un peu en arrière. Nous avons eu dans cette émission, parole aux auditeurs, plus de deux ou trois émissions, parlant de la suspension des écoles doctorales chez l'UNESCO. Alors, pour refresher la mémoire de nos auditeurs, qu'est-ce qui a été reproché à ces institutions qui organisaient les écoles doctorales et chez l'UNESCO, qui étaient bien sûr suspendues en attendant?
Bien, la question vaut effectivement à peine d'être posée, parce que peut-être que l'opinion n'est pas bien informée sur... toutes ces mesures, en particulier celles qui portent suspension des écoles doctorales, de CERN, UNESCO, etc. Eh bien, on peut simplement dire que l'organisation des enseignements est quand même régie par des textes. Nous avons toute une panoplie de textes, mais je crois qu'il y a peu de secteurs qui bénéficient d'autant de textes législatifs qui organisent tous les secteurs que celui de l'enseignement supérieur. Mm-hmm. Eh bien, on a tout simplement reproché à certaines initiatives de se prendre soit en dehors des textes qui régissent l'enseignement supérieur, soit d'aller au-delà de ce qui était initialement prévu. Mm-hmm. parlons de la chaire UNESCO, parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, la chaire UNESCO a été créée dans des conditions bien spécifiques, pour une durée déterminée, pour une mission déterminée, et avec un partenaire bien défini. Dès lors que la mission en question n'est plus suivie, dès lors que les acteurs même, en particulier le partenaire principal qu'est l'UNESCO, ne se reconnaît plus, puisque justement la durée est dépassée, et puisque la chaire continue à fonctionner en dehors des normes de notre enseignement supérieur, il était tout à fait normal que le ministre de l'enseignement supérieur mette de l'ordre dans tout cela.
Voilà. Voilà.
Ça, c'était la mesure. Ça, c'est pour la chaire UNESCO. Tandis que pour les écoles doctorales, on le dit maintenant au pluriel, alors qu'en fait, il n'existait qu'une seule école doctorale qui était celle de l'UPM, qui s'est autorisée à étendre ses activités sur l'ensemble du pays, en dehors des conditions, une fois de plus, prévues par la réglementation, et bien il est tout à fait normal aussi que de ce côté-là, on mette de l'ordre.
Voilà, on en a parlé plusieurs fois. Avant d'écouter les auditeurs qui sont en ligne, mais nous revenons à la nouvelle décision, peut-être que vous l'avez, mais nous avons parlé des 14 institutions d'enseignement supérieur qui sont autorisées à organiser d'une manière expérimentale, bien sûr, les troisième cycles à partir de l'ouverture de l'année académique prochaine 2011-2012. D'abord, quelles sont ces institutions pour que les auditeurs puissent prendre connaissance?
Très bien. Eh bien, je voudrais d'abord rectifier une chose. Il ne s'agit pas de 14 établissements. Vous avez pris une information, je peux dire en cours de route, c'est-à-dire que le processus continue. Que se passe-t-il? Eh bien, pour assurer la relève, je crois qu'on en parlera longuement dans cette émission, pour assurer la relève de ce personnel académique qui est à la fois vieillissant, comme vous le savez, on en parlera, et qui est insuffisant, eh bien, il était normal que la tutelle prenne des dispositions pour permettre à un certain nombre d'établissements d'organiser ce troisième cycle. Eh bien, on a le ministère a posé une condition première, il faut qu'il y ait quand même des ressources humaines suffisantes. Et dans un premier temps, il a été décidé que une institution qui a au moins 5 professeurs en propre peut demander l'autorisation d'organiser un troisième cycle. Donc jusqu'à présent, à la date où je suis en train de vous parler, il n'y a pas que les 14, parce que les 14 auxquels vous faites allusion, c'était quelques ISP les ISP avec les ISPT, c'est un bloc, et ainsi que quelques instituts supérieurs techniques, les IST. Mais à l'heure où je vous parle, les établissements autorisés à demander cette autorisation générale d'organiser le troisième cycle, eh bien, ce sont les universités, publiques ou privées, les ISP, les ISPT, quelques écoles régionales et un ISP privé. À l'heure actuelle, il y en a 46, quand on prend le nombre global.
Cela veut dire 46 sont autorisés à demander parce qu'ils ont au moins 5 professeurs.
Voilà.
Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà demandé et à qui le ministère a déjà accordé l'autorisation d'ouvrir le troisième cycle d'ici, en fait, d'organiser le troisième cycle d'ici la rentrée académique?
Voilà. Il y en a d'abord qui n'ont même plus besoin de demander l'autorisation générale puisqu'ils l'ont déjà. Ce sont les universités publiques. Les universités publiques n'ont plus à demander puisque elles ont déjà cela. Sauf quand elles veulent ouvrir de nouveaux enseignements. Nous parlerons de l'autorisation spécifique après. Quant aux ISP, on en a déjà dénombré 10 qui sont dans les normes, mais qui doivent encore demander les deux autorisations. Il y a une autorisation générale. Mm-hmm. Dès qu'on a 5 professeurs, on peut obtenir cette autorisation générale. Mais à côté de l'autorisation générale, il y a les autorisations spécifiques, c'est-à-dire NISPX, prenons un exemple, l'ISP de Bukavu, a 5 professeurs ou plus, demande l'autorisation d'ouvrir un troisième site. On le lui accorde. Le même ISP de Bukavu voudrait pour l'année 2011 et 2012 commencer un troisième cycle, par exemple, au département de biologie. À ce moment-là, l'ISP de Bukavu sollicite l'autorisation spécifique pour organiser un troisième cycle au département de biologie.
Voilà. Jusqu'à ce niveau, on arrête pour permettre aux éditeurs de comprendre comment nous cheminons. Oui. Comme ça, vous êtes à la maison, vous étudiez, vous êtes concerné par ces besoins pour le troisième cycle dans votre milieu. Nous allons y aller avec beaucoup plus de précision quand vous appelez de Bukavu, de Kananga, poser les problèmes en fonction de votre milieu pour que nous puissions avoir des éléments de réponse. Nous avons Mathieu qui est ici à Kinshasa, Théo est à Kananga, Maître Alain est à Goma. Nous allons revenir à vous pour que vous puissiez d'abord réagir par rapport à la décision du ministre, mais si vous avez aussi des préoccupations, le présenter dans cette émission par rapport à ce dossier du troisième cycle.
Parole aux auditeurs.
Mathieu, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour,
on vous écoute. Comment d'abord vous réagissez par rapport à la décision du ministre?
Alors, ma petite question, je voudrais savoir quel est le motif pour lequel ils arrivent à créer des projets au niveau de la décision. Parce que nous pensons que les cycles qui existent ne sont pas bien organisés. Les études qui sont faites dans ce cycle ne sont pas vraiment bien organisées. Ne sont pas bien organisées, si vous voulez. Parce que nous prenons notre.
Voilà, on a des petits soucis avec vous, Mathieu, mais j'ai retenu que vous avez posé la question de savoir mais pourquoi, pour quel motif on doit ouvrir déjà, on doit organiser le troisième cycle alors que les conditions d'études pour les cycles que nous avons déjà, première et deuxième, vous pensez que les conditions ne sont pas meilleures, alors pourquoi penser déjà à organiser le troisième cycle pendant que les conditions d'études dans le premier et deuxième cycle ne sont pas meilleures? Mais malheureusement, la qualité ne permet pas qu'on puisse aller plus loin, mais du moins, c'est la votre première préoccupation. Merci beaucoup, Mathieu de Kinshasa. Nous avons Théo qui nous appelle de Kananga au Kassé Occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue les amis de la radio Kassé et surtout les auditeurs.
On vous écoute par rapport d'abord à ce que vous pensez de la décision du ministre et votre complément aussi en cela.
Merci beaucoup. La décision du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire est salutaire. C'est une solution qui vient de tomber au moment voulu pour relever le défi que nous avons toujours de crier, la carence des enseignants qualifiés au niveau supérieur. Je suis à Kananga, je suis enseignant à l'ISP Kananga, j'ai souffert pour défendre le troisième cycle pour le DEA que j'ai défendu l'année passée à Lubumbashi à fond propre. Parce que ici, l'étendue de notre province, il n'y avait aucune école doctorale autorisée et acceptée par le ministère. Maintenant, ma préoccupation se résume en deux points. Le premier point, l'ISP Kananga qui pourra être bénéficiaire de l'école doctorale a une spécificité comme enseignement supérieur pédagogique. Et dans cet institut, vous avez aussi les universitaires, ceux qui sont venus des grandes universités, comme Lubumbashi et Kinshasa. Vous avez deux types d'enseignants. À l'époque, il y avait d'abord le problème de licences spéciales pour les ressortissants de l'ISP lorsqu'ils allaient étudier à Lubumbashi ou à Kinshasa, donc dans les universités. Actuellement, avec cette décision, on va supprimer la licence spéciale pour organiser le cours de troisième cycle, ou bien il y a d'abord la licence spéciale pour enfin organiser le troisième cycle. C'est le premier point, l'invité peut nous répondre. Le deuxième point, quand vous prenez la spécificité des ISP, il y a des cours, il y a des enseignants qui sont là, qui peuvent être minoritaires. Par exemple, un seul qui a fait la physique à l'université, ou la mécanique, ou qui se retrouve seul, comme a dit SPK, vous avez deux ou trois sociologues. Mais comment on va pratiquement organiser pour élever le niveau de ces enseignants-là? Voilà au moins les deux préoccupations que j'avais.
Okay,
pour terminer, lorsque maintenant on organise cette école électorale qui est plus à l'ISP Canan pour la province du Gassou occidental, c'est un exemple que je donne. Maintenant, les autres instituts supérieurs et universitaires, comment vont-ils collaborer pour que les enseignants se retrouvent dans d'autres universités, d'autres instituts supérieurs, avec leurs spécificités, puissent aussi bénéficier de cette formation-là? Et d'autres enseignants qui sont dans d'autres universités, peut-être il y en a deux ou trois. Est-ce qu'on ne peut pas en faire une école doctorale pour soit la province, soit pour la ville, au lieu que ça soit par exemple une école doctorale pour un institut spécifique? Voici quelques préoccupations que j'avais.
Merci Théo, on a bien suivi les trois préoccupations que notre invité a bien notées, il pourra vous répondre. Nous avons Maître Alain qui est à Goma, au Nord Kivu. Bonjour Maître.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute. Bon,
ma question réside au niveau de ce troisième cycle. Je voudrais savoir, ministre, comment le ministre veut procéder à ouvrir encore le troisième cycle, au moment où d'abord le premier cycle et le deuxième cycle lui semblent difficiles, même à tous les professeurs. Souvent, ici à Goma, vous allez voir un professeur ordinaire qui est payé $3 par heure. Au moment où même en Europe, même en France, même où, vous allez voir un professeur, par exemple, dans une université, le professeur est bien considéré. Il est bien respecté. Je ne sais pas pourquoi le ministre veut encore faire cela. Au moment où il devrait d'abord payer tous les professeurs qui sont dans les universités, qui devraient être bien encadrés pour qu'ils puissent bien travailler. Parce que je le vois, mais au niveau national, je le crois bien, l'enseignement est en voie de disparition. L'enseignement va vouloir faire disparaître. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne prend plus même la considération même des intellectuels. Vous allez voir que normalement, nombreuses personnes disent que non, Batanga, ça va zanga. Après, c'est là le troisième cycle, encore ça va venir. Je ne sais pas pourquoi le ministre veut que j'ai encore ouvrir encore le troisième cycle. Moi, le premier et le deuxième cycle me semblent difficiles.
Merci, Maître Alain. Votre souci, c'est qu'il fallait d'abord améliorer les conditions de vie, de travail des professeurs dans le cycle qui existe et permettre d'ouvrir le troisième cycle après. Merci beaucoup. Vous êtes à Goma, au Nord Kivu. Billy, vous êtes en Boujimaï. Bonjour, Billy. Billy, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Allô?
Oui, Billy, vous êtes sur les antennes. Vous avez suivi notre ami de Goma qui a rejoint celui de Kinshasa pour dire qu'avant de penser à ouvrir le troisième cycle, il fallait d'abord améliorer les conditions d'études et les conditions des professeurs dans le cycle existant. Alors, vous, quel est votre point de vue par rapport à cela?
En fait, moi, je suis trop d'accord. Améliorer les conditions de professeurs, oui, mais d'où pour nous le troisième cycle, ça va pas la faute de des universités. Parce que moi, je suis un étudiant de l'université officielle de Kujimaï. Ici, je sais que ça va. Parce que les conditions d'études, elles sont un peu bonnes par rapport à toutes les collègues de Goma. Nous recevons des enseignants. Et puis, nous sortons quand même de l'université en fait quelques bagages intellectuels dans la tête. Donc, moi, je pense que il faut d'abord essayer d'arranger au premier ou au deuxième cycle. Nous espérons peut-être de nous retrouver dans 10 ans, qu'il y aura presque plus de professeurs, parce que bon nombre d'entre eux sont à nous. Ils sont nous, donc ils sont déjà vers la fin de leur carrière, donc il faut quelque part préparer leur élève. Moi, je ne trouve pas un mal que si aujourd'hui le ministre ou le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, il va aussi dit d'essayer un peu de libéraliser dans la plupart des institutions publiques l'enseignement au troisième cycle. Je pense que c'est une bonne chose pour essayer un peu de préparer nos élèves à ce que.
Merci.
Voilà, merci Billy, mais on a aussi des petits soucis avec votre ligne, on a suivi, votre souci à vous, c'est de continuer. Vous saluez la décision, vous pensez qu'on peut aller avec les deux, au même moment qu'on ouvre les troisième cycles, mais aussi travailler pour l'amélioration des conditions d'études, que ce soit dans n'importe quel cycle. Merci beaucoup, vous êtes en Bujima et au Kasaï oriental. Nous allons écouter Ekibima qui est au Maniema et Tel Bédé. Maintenant, on va revenir à notre invité pour répondre à ses préoccupations. Ekibima, vous êtes en ligne, bonjour.
Et bonjour, je ne suis pas Kilima, je suis Kilima de Kalima Maniema.
Mm-hmm. Allez-y, on vous écoute. C'est votre nom, Kilima, oui. Kalima, en fait, il y en a un petit peu.
Je suis très content d'écouter le ministre en train de faire l'une de ses attributions. Mais ce qui importe là, ce n'est pas le fait d'avoir augmenté le deux ou le troisième cycle. Nous connaissons bel et bien que l'RDC aujourd'hui a beaucoup d'universités, également a beaucoup d'étudiants. Mais les niveaux des étudiants en RDC sont vraiment douteux. Pourquoi? Vous comprendrez avec moi qu'un étudiant congolais ou côté africain, il n'est pas déplacé en Europe, il doit d'abord commencer à passer par les contrôles, on le teste avant qu'il soit admis dans une université. Pourquoi? Parce qu'on est en train de douter avec les enseignements qui réussissent les étudiants de l'RDC. Mais ce que moi je veux, c'est quoi? Vous comprendrez, en RDC, il y a peu de professeurs, alors qu'il y a beaucoup d'étudiants. Mais ailleurs, un professeur a besoin d'équiper 50 étudiants. Mais chez nous, un professeur peut équiper 1000, voire 2000 étudiants. Mais nous avons des assistants qui sont éternels. Nous sommes passés assistants depuis 1990, nous sommes en 2011, nous sommes toujours assistants. Mais ce que moi j'ai préféré, c'est d'aboutir à une bonne condition de l'amélioration du niveau des étudiants. Il faut qu'on améliore les enseignements, il faut qu'on contrôle bien, puisque nous avons entendu le ministre aller ici et là pour fermer les universités, les instituts supérieurs, c'est bon. Et aussitôt, il crée les autres. C'est bon. Est-ce qu'on peut aboutir à une gestion qu'on a encore appris du gouvernement qui voudrait qu'on aille en RDC 26 provinces, mais arriver à la date prévue, la date n'a pas été faite. Et donc, je suis très content de ton idée, mais ce que moi je veux, c'est qu'il contrôle le niveau des étudiants voilà. Et l'amélioration de l'enseignement soit efficace.
Merci, Kilima de Kalima.
Kilima,
voilà, c'est Kilima de Kalima au Maniema. Ok, nous allons terminer avec Étienne. Vous êtes à Guéména. Bonjour Étienne.
Ah, bonjour Radio Kati, bonjour à tous nos auditeurs. C'est Étienne, nous sommes de Guéména.
On vous a déjà présenté Étienne, allez-y. Quel est votre point de vue par rapport à cette décision?
Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Je pense que c'est une bonne chose que le ministre puisse relever sa décision de pouvoir mettre le troisième cycle en marche. Le vrai problème, c'est quoi? Monsieur le journaliste, vous allez comprendre que beaucoup de nos professeurs actuellement sont des professeurs qui ont été boursiers. Mais au stade actuel, ben, ces professeurs sont au nombre minime. Si on peut compter actuellement 1400 professeurs par rapport aux institutions supérieures qui sont dans notre pays, vraiment, c'est un nombre très insuffisant. Mais je pense que le gouvernement devrait commencer d'abord par mettre les bourses d'études aux professeurs, donc aux enseignants ou au corps académique, pour pouvoir aller à l'étranger étudier, et cela, ça renforcerait donc l'enseignement supérieur universitaire. Mais le fait que cette politique n'existe pas, et dernièrement, il y a une décision qu'on avait supprimé les écoles doctorales. On a dit, à Guéména, par exemple, là où je parle, il y avait l'école doctorale. Alors, cette école doctorale-là devrait nous aider pour pouvoir ouvrir le deuxième cycle et aider les gradués qui sont au nombre très important dans le Sigou Bandidaere, pour pouvoir aborder le deuxième cycle. Cela a été supprimé. Maintenant que le troisième cycle que le ministre est en train de parler, nous ne savons pas en Équateur, et surtout précisément à Guéména. Si notre institut supérieur pédagogique est celui de Guéména, sera ciblé. Au fond, ça ne sera pas ciblé, donc on va toujours handicaper, entraver donc, la bonne marche de l'enseignement supérieur universitaire. En
sachant
que même les corps scientifiques ne sont pas bien rémunérés. Maintenant, comment la politique que le ministre veut mettre en place
pour mettre les professeurs dans de très bonnes conditions pour que ce troisième cycle puisse avoir lieu en bonne et due forme, monsieur le journaliste.
Merci, Étienne Béguéména. Mais vous avez aussi posé une question spécifique par rapport à l'ISP Béguéména, s'il est considéré concerné par le troisième cycle, si les conditions peuvent permettre. Merci beaucoup à ces premiers groupes d'auditeurs. Nous allons revenir à notre invité pour essayer de commenter, parce qu'il y a aussi les préoccupations qui se rencontrent. On pourra les combiner, mais aussi il y a des questions spécifiques auxquelles on pourra trouver des solutions.
Parole aux auditeurs.
Le professeur Pierre Kita, vous avez noté effectivement, nous avons l'ensemble des auditeurs qui voudraient savoir si toutes les conditions sont réunies pour la prise en charge des professeurs. Enfin, bien sûr, que le troisième cycle puisse réussir, c'est une préoccupation globale, l'amélioration des conditions de vie des professeurs. Il y a aussi des préoccupations spécifiques, hein, comme celui des taux des Kananga par rapport à l'ISP, ce qu'il faut faire, comment aider les enseignants, est-ce qu'il y aura des licences spéciales à l'ISP Guémena, est-ce qu'on aura aussi les troisième cycle. Voilà un peu ces deux préoccupations spécifiques et aussi les préoccupations de considération générale. On vous écoute.
Bien, je dois d'abord dire que je me réjouis de voir que pratiquement tous les intervenants saluent la décision du ministre. C'est que tous comprennent, ou pratiquement tous comprennent, la nécessité d'organiser ce troisième cycle, en particulier face à ce problème crucial qui est celui de la relève du personnel enseignant, du personnel académique.
Mmh.
Ça, c'est une bonne chose. Je voudrais également dire que ceux qui demandent est-ce que l'ISP où je travaille ou dans ma province, est-ce que c'est ciblé, etc., je ne me mettrai pas ici à lire, parce que je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, 46, même si on enlève les 14 universités, il reste quand même 32. Mais je veux simplement les renvoyer au site du ministère de l'enseignement supérieur où ces listes existent. Et de toute façon, elles sont publiques. Maintenant, je voudrais dire que ce problème de la relève est si capital qu'on ne peut plus se permettre d'attendre trop longtemps. Mais naturellement, on ne le fait pas dans la précipitation. Il y a un certain nombre de conditions et les précautions que prend le ministère sont si exigeantes que finalement, on ne va pas y aller à l'aventure. Nous avons bien dit, un établissement qui a au moins 5 professeurs propres, en propre, peut demander l'autorisation générale. Elle est automatiquement accordée. Mais l'autorisation spécifique est soumise à des conditions strictes. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit sûr d'avoir les ressources humaines nécessaires, les conditions scientifiques minimales nécessaires. Et ce n'est qu'à l'examen du dossier qui est introduit que l'on peut alors accorder cette autorisation spécifique. Ceci me permet de dire à notre ami de Kananga,
Théo, oui.
C'est Théo, que je comprends. Il a fait la malheureuse, si je puis dire, expérience d'aller faire une licence spéciale et tout le monde sait combien on a créé des difficultés à ceux qui n'avaient pas été dans une université, qui ont terminé, par exemple, leur licence dans un ISP, d'aller faire cette licence spéciale. C'était dans des conditions, je dirais, presque kafkaïennes. De manière que maintenant, ils vont avoir la possibilité d'avoir ce troisième cycle dans des conditions aussi rigoureuses et peut-être même plus rigoureuses que celles qu'ils ont pu connaître dans les universités. La licence spéciale pourra être organisée d'une autre manière. C'est-à-dire que celui qui est, par exemple, dans une ISP, puisqu'on a parlé de la spécificité des ISP,
oui.
Les ISP, leur troisième cycle a pour objectif essentiel la formation en didactique des disciplines. Donc, ce sont des didacticiens des disciplines qui seront formés là.
C'est-à-dire que finalement, il y a d'abord les pédagogues, et il y a également des spécialistes de différentes disciplines. Mais ces gens-là pourront ainsi bénéficier d'un programme qui est déjà établi d'ailleurs, un programme qui prévoit un grand volet de pédagogie et un grand volet de leur discipline spécifique. Les enseignants, eh bien, ce seront des enseignants à la fois des pédagogues et aussi des spécialistes de ces différentes disciplines. Ceci m'introduit dans l'autre aspect qu'il a évoqué, celui de la collaboration
avec d'autres
institutions. Avec d'autres institutions. Aujourd'hui, il n'y a pas une institution qui peut prétendre se suffire à elle-même. C'est pour cela d'ailleurs que même si c'est un institut qui est autorisé à avoir son troisième cycle, parce qu'il a ses cinq professeurs, mais cet institut devra faire appel à d'autres ressources humaines qui viendraient soit des institutions de la place, de la province, du pays, ou même de l'étranger. Donc là, il n'y a pas à douter un seul instant. Quant à ceux qui disent pourquoi ouvrir un troisième cycle alors que les deux autres cycles font des problèmes. On les a déjà, enfin d'autres intervenants ont déjà démontré que c'est un faux problème. Ce n'est pas parce que, naturellement, on doit toujours tendre à l'amélioration de tous les cycles, mais cette amélioration ne va pas être un handicap à aller de l'avant pour les cycles, le troisième cycle. L'ami Kimima de Kalima s'est préoccupé de du ratio professeur-élève. Il a bien raison, bien que ces chiffres ne soient pas tout à fait exacts. Et ceci me permet de parler de la préoccupation du ministre. Quand le ministre parle souvent de notre souci de nous approcher des standards internationaux, de suivre les normes internationales. Vous savez que d'après l'UNESCO, la norme, le ratio qu'il faut, c'est un professeur pour 10 étudiants, un professeur pour 4 scientifiques. Aujourd'hui, notre système d'enseignement supérieur universitaire est loin de cela, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un professeur pour 325 étudiants, un professeur pour 7 scientifiques. Vous voyez que pour que nous nous approchions de la norme, il y a du chemin à parcourir, voilà. Et d'après les calculs qui ont été faits par les experts du ministère, il nous faudrait réaliser au moins 2500 thèses de doctorat par an pour que d'ici 5 ans, nous puissions arriver
2500 thèses de doctorat par an.
Voilà. Pour que nous puissions arriver à atteindre les normes internationales.
Voilà, Valérie, vous êtes à Kananga, Mohamed est à Mahagi, Bosco est à Bumbashi, mais une petite question, c'est par rapport à l'autorisation spécifique. C'est peut-être l'inquiétude. On peut avoir 5 professeurs dans une institution, si chacun est dans son domaine, mais non, nous avons besoin, comme Théo l'a dit, de la sociologie. On se rend compte qu'on a un seul professeur, un seul sociologue. Allons-nous demander au ministère une autorisation spécifique pour la sociologie pendant que dans les 5, on ne saura pas voir tous qui sont du même domaine un peu rapidement?
Ça, c'est une excellente question, mais je dois dire que les précautions nécessaires sont prises. Pour une discipline donnée, pour un domaine déterminé, l'institution qui demande l'autorisation spécifique doit s'assurer de pouvoir réaliser cela. D'abord, je dois dire qu'il n'est pas dit qu'une université ou un institut supérieur est obligé d'organiser un troisième cycle dans tous les domaines en même temps. Il faut voir, même dans les universités des pays les plus développés, les plus avancés, eh bien, vous trouvez des universités qui se spécialisent dans tel ou tel domaine. Eh bien, pour reprendre votre exemple, est-ce que toutes les matières prévues dans le programme du troisième cycle pourront être assurées? Et par quel professeur? Un seul professeur ne le peut pas. Et s'il n'y a qu'un seul et que l'institution n'a pas de possibilité de faire appel à d'autres spécialistes qui puissent bien meublé l'ensemble du programme, c'est l'autorisation spéciale, mais il ne sera pas accordé.
Merci. Valérie, vous êtes en ligne, Mohamed est en ligne, nous allons revenir à vous et Bosco de Boumbashi tout de suite après.
Parole aux auditeurs.
Valérie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental, on vous écoute.
Oui, j'avais une petite préoccupation à pouvoir avoir des précisions en fait de votre invité.
Allez-y.
Moi, je suis de l'université de Kananga. On s'inquiétait déjà, peut-être on se disait l'année prochaine, il faut qu'on voyage partir à Lubumbashi ou à Kinshasa. Mais on a été informé auprès de notre université qu'il y aura le troisième cycle. Alors, j'ai voulu avoir des précisions auprès de l'université si il confirme aussi ses propos. Et l'autre préoccupation, je voulais savoir les professeurs en question. C'est l'université qui le prend en charge ou c'est le ministère?
Oui, Valérie, revenons d'abord. Quand vous parlez de l'université de Kananga, avec beaucoup de précisions, c'est ce qui était l'extension de l'université de Lubumbashi, c'est ça?
Oui, ce qui était l'extension, c'est devenu une université autonome.
Ah, ok, vous voulez savoir si c'est vrai qu'il y aura un troisième cycle à cette université et la prise en charge des professeurs, c'est les universités ou bien c'est au niveau du ministère. Merci beaucoup, Valérie, de ces deux préoccupations. Mohamed, vous êtes à Mahdi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Mali, en province orientale, on vous écoute.
Oui, bon, moi, je vais le connaître, je sais
pas. Mohamed, est-ce que vous pouvez vous concentrer sur l'émission, on vous écoute. Voilà, le temps que Mohamed te mette en ordre parce qu'il est en train de discuter avec d'autres personnes à côté, nous allons à Lubumbashi. Bosco, vous êtes en ligne, bonjour. Bosco, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, je suis en ligne.
Oui, Bosco, on vous écoute, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga.
Ah oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je voudrais soulever un point. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de déplorer le nombre insuffisant de professeurs dans nos universités. Je crois que c'est bien, parce que le ministre a pris comme décision. Mais, personnellement, je ne crois pas que c'est seulement ça qui est à la base de l'insuffisance des professeurs dans nos universités. Parce que je me rappelle quand j'étais encore étudiant, en deuxième cycle, à l'université de Lubumbashi, il y avait un professeur étranger, une femme qui n'avait que 31 ans. Moins âgé que certains de mes collègues avec qui je suis. Je me suis demandé comment est-ce qu'un professeur, un jeune professeur, de cet âge-là, est devenu professeur et peut venir donner cours ici chez nous. J'ai compris que c'était une question de bonne volonté, une question de bonne organisation dans notre pays par rapport à notre pays. Je me rappelle, un des professeurs ici chez nous disait qu'on ne peut pas admettre qu'un étudiant d'ici puisse être professeur à l'âge de 30 ans.
Pourquoi?
Parce que seulement un professeur doit avoir au moins 45 ans ici chez nous. Alors, je voudrais demander à M. le ministre de demander aussi de donner, de conscientiser nos professeurs. Même si, parce que personnellement, je suis en train de me rendre compte que même si on leur donnait ce qu'ils ont besoin, on leur donnait toutes les conditions possibles. S'ils n'ont pas la bonne volonté, je crois qu'il n'y aura pas de professeurs qui seront formés ici chez nous. Ils gardent le même sentiment que le professeur qui m'avait dit qu'on ne peut pas avoir un professeur de 45 ans ici chez nous. Donc nous, jeunes, on ne sera jamais professeur, on ne peut jamais donner cours. C'est ça que j'avais comme
préoccupation. Merci beaucoup, Bosco de Lubumbashi. Il faudrait de la bonne volonté. On en avait parlé avec le ministre dans une des émissions par rapport aux professeurs qui peuvent autant retenir les travaux des étudiants. Merci beaucoup pour ça. Mais à quel âge peut-on devenir professeur au Congo? Notre invité nous pourra nous donner la réponse. Nous avons Alain qui est à Kolwezi, dans la même province du Katanga. Alain, bonjour.
Bonjour, Piro.
Oui, Mohamed, merci Mohamed, c'est
un bonjour.
Ok, oui.
Je tiens aussi à saluer l'initiative de Monsieur Achat Komamba pour ce qu'il a fait. Je pense bien que pour le troisième cycle, c'est déjà quelque chose de positif que nous devons nécessairement essayer d'encourager.
Mais le problème qui se pose là, c'est qu'il faut essayer de voir les autres professeurs. Les professeurs qui ont évolué avant, ils sont déjà avancés en âge, et puis il faut quand même qu'on essaie de voir comment former des jeunes pour remplacer les autres qui peuvent peut-être un jour mourir. Mais la question que j'aimerais poser, hein, j'ai juste une petite question que j'aimerais poser au professeur. La première question que j'aimerais poser, c'est concernant d'abord les anciens professeurs, donc les professeurs que nous avons actuellement. J'aimerais un petit peu savoir, on les voit souvent essayer de présenter leur doléance au gouvernement. Est-ce que le gouvernement a déjà accordé aux anciens d'abord pour que les nouveaux professeurs qui viendront puissent aussi être en conscience qu'ils ne vont pas tomber dans une certaine impasse? Ça, c'est la première des choses. Ah, la deuxième question que j'aimerais poser, c'est un projet pour vous donner la question de savoir pourquoi nous voyons que les études qui se donnent, on essaie de former beaucoup plus de généralistes. On n'a pas vraiment des spécialistes. C'est ça la question que j'aimerais poser. Merci.
Merci Alain. Peut-être qu'on a des mesures prises pour permettre aux nouveaux profs qui seront formés de ne pas se décourager. Mais pourquoi on a tendance à former plus les généralistes au Congo que des spécialistes? Merci beaucoup. Mohamed, je pense que votre ligne, ça va maintenant. Bonjour. Mohamed, vous êtes en ligne de Maagui en province orientale. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Pierre.
On vous écoute. On avait des petits soucis avec vous sur la ligne. On vous écoute maintenant.
Oui, Pierre, moi je vais juste intervenir et échanger un peu avec les musiciens. Je veux d'abord remercier monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire d'avoir organisé et ouvrir ce troisième cycle de doctorat.
Mmh.
Je crois que M. le ministre a une bonne vision, vu qu'il a les soucis de son pays d'abord. D'autre part, je crois qu'il doit d'abord revoir certains défis à relever de milieux supérieurs et universitaires. Première chose qu'il doit avoir, c'est d'abord l'amélioration des conditions de vie des cadres universitaires à des milieux, universitaires. Deuxième chose, on doit avoir une bonne qualité d'enseignement à des milieux universitaires. Enfin, je veux terminer que monsieur le ministre passe alors relève d'abord les défis qu'il faut dans des milieux universitaires en organisant l'enseignement, en organisant, disons, la bonne qualité d'enseignement dans les deux premiers cycles. Je crois que le ministre ne doit pas aller plus vite pour organiser l'enseignement sur le troisième cycle chez nous ici au Congo. Parce que quand ils doivent organiser, il faudrait qu'ils vont plus loin. Il y a plusieurs paramètres qu'ils doivent parcourir. Bref, je veux dire que M. le ministre est allé plus vite pour organiser cet enseignement.
Mm-hmm. Mohamed, au début.
De doctorat.
Oui, au début, vous avez dit que vous saluez la décision, ça montre la vision et le souci du ministre, mais enfin, vous dites qu'il est allé plus vite. Bon, là, peut-être qu'on a des soucis, mais si on peut bien comprendre ce que vous dites, votre souci, c'est qu'on améliore la qualité de l'enseignement pour être un peu plus concret. Merci beaucoup, Mohamed de Maagui. Nous allons terminer avec vous, Mathieu.
Oui, c'est ça, Pierre.
On va revenir. On rentre ici à Kinshasa. Mathieu, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Zemmour.
On vous écoute, Mathieu.
Oui, je salue d'abord la décision du ministre, parce que c'est particulièrement plus encore exigeant sur l'IS secondaire. Je suis en train de saluer cette décision, mais je voudrais un peu savoir. D'abord, est-ce qu'on aura seulement les taux de professeurs et qu'on a seulement ici en RDC pour enseigner pour le troisième cycle, la question? Et deuxièmement, je voudrais savoir quelle est la démarche que notre ministère entretient pour l'octroi des bourses aux étudiants. Je n'arrive pas à savoir actuellement si on a des bourses d'étudiants ou pas. Je ne sais pas. C'est juste ce que je voudrais savoir.
Merci beaucoup, Mathieu de Kinshasa. Je crois bien que nous avons Petit Poisson qui est à Guémena. Lui va garder la ligne, hein, le temps qu'on revienne à notre entité pour répondre à ses préoccupations. On va revenir à vous, Petit Poisson. Vous êtes à Guémena. Gardez la ligne.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, pour les Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 12h, et mercredi de 10h, dans le Kinshasa.
Le professeur Pierre Kida, vous avez suivi encore le groupe d'auditeurs. Il y en a qui sont revenus sur la préoccupation déjà répondue par rapport à l'amélioration des conditions d'études, mais il y a des questions spécifiques. Hein. C'est par exemple le problème des bourses. Quand un auditeur qui a posé ce problème, il dit hein, si les autres ont évolué aussi rapidement, c'est parce qu'il y a la volonté de leur accorder les bourses. Qu'en est-il des bourses? Est-ce que l'Université de Kananga va organiser les troisième cycles? Mais on a déjà un problème de carence des professeurs par rapport au premier et deuxième cycle. Mais avec les troisième cycles, va-t-on recourir aussi à l'extérieur pour avoir des professeurs? Voilà un peu autant des préoccupations des auditeurs pour cette partie.
Et je dois dire que ce sont des questions fort intéressantes parce qu'elles nous permettent de préciser un certain nombre de choses. Et d'abord, cette question de notre amie Valérie de Kananga qui se demande est-ce que les formateurs seront pris en charge par l'université
ou bien par l'État, oui.
Et c'est tout simplement, ce sont des professeurs qui seront donc payés comme ils le sont aujourd'hui, c'est-à-dire par l'État. Là, il n'y a pas de souci à se faire. Et j'en profite pour dire que le recours à des ressources humaines de l'extérieur est non seulement indispensable, mais je dirais même fortement encouragé.
Mm-hmm.
Parce que tout simplement, aujourd'hui, le savoir est universel. Et dans ce monde qui est devenu un gros village, il n'est pas normal que l'on s'enferme sur soi-même. D'ailleurs, certaines institutions vont bénéficier justement de l'autorisation du troisième cycle parce que dans leur dossier se trouve un élément important qui est celui du développement de partenariats avec le monde extérieur. Je prends par exemple l'ISES de Lubumbashi, je prends par exemple l'Université catholique de Bukavu ou l'ISP de Bukavu, etc. et bien d'autres. Donc, faire appel à des professeurs, à des compétences extérieures, naturellement, et ceci est fort encouragé. Quand un prof dit à ses étudiants, et ça,
on ne peut pas devenir professeur
à Moscou, de Lubumbashi, oui, malheureusement, c'est une réalité. Nous avons eu des professeurs qui ont mis leur point d'honneur, s'il y a honneur à cela, à bloquer les autres, parce que tout simplement, ils ne veulent pas qu'ils avancent. Quel est l'âge? Mais au contraire, plus on est jeune, mieux ça vaut. Je m'excuse de prendre mon professeur. Moi, je suis devenu professeur à 33 ans.
Mm-hmm.
Et pourquoi est-ce qu'on doit dire qu'un prof ne peut pas, quelqu'un ne peut pas devenir professeur à moins de 40 ans? Moi, je l'ai été. Voilà. À partir de 300 ans, j'ai dit déjà. Et le vieillissement, là, c'est un phénomène congolais qu'il faut combattre. Aujourd'hui, nous trouvons des étudiants de plus de 30 ans qui sont encore au premier cycle ou au deuxième cycle. Nous trouvons des chefs de travaux qui ont 55 ans et il est encore chef de travaux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Au contraire, une scolarité normale doit faire que 18 ans on a terminé ses études primaires, ses études secondaires, qu'à 22, 23, 25 ans, on a terminé ses études universitaires, et à moins de 30 ans, on a sa thèse de doctorat. Voici les âges que je pourrais présenter comme standard.
Mais là, il se pose un problème d'octroi aussi de moyens pour parvenir à tout cela. C'est pour répondre aux auditeurs qui ont posé les problèmes des bourses. Rapidement, on écoute les deux derniers auditeurs.
Bon, pour ce qui est des bourses d'études, je dois dire d'abord, les Congolais, nous devons nous dire une chose. La tradition qu'on a connue dans les années 60-70 des bourses pour aller à l'étranger,
je crois qu'il faut maintenant mettre tourner cette page-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de bourses études pour aller à l'étranger, mais on peut également faire ses propres études universitaires, doctorales, ici au Congo, sans une bourse étrangère. Mais ceci n'empêche pas que le ministère est aujourd'hui en train de déployer, de développer tout un plaidoyer pour obtenir des bourses de recherche en faveur des chefs de travaux pour que ceux-ci puissent aller de l'avant dans leur recherche.
Dommage que vraiment le temps ne nous permet pas d'aller question par question. Et nous avons deux auditeurs en ligne. Vous allez aussi préparer la réponse pour notre ami Décolusi qui s'inquiétait par rapport à la formation des généralistes, pourquoi nous ne sommes pas des spécialistes. Vous allez ramasser cela et les deux derniers auditeurs, comme ça vous permet de leur répondre et de conclure l'émission. Dommage qu'on est vraiment à la fin. On écoute rapidement Petit Poisson de Guimena dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous prend à la fin de l'émission. En une minute, on écoute votre point de vue.
Merci beaucoup. J'avais trois préoccupations. Heureusement que l'auditeur de Guimena posait déjà si est-ce que Guimena peut bénéficier de ces critériums. Mm-hmm. On ne peut plus y revenir.
Okay.
La deuxième préoccupation, qu'est-ce qui justifie cette marginalisation? Parce que parmi les listes qu'il a citées, les ISP, les ISPT, et les universités publiques, on n'a pas attendu parler des études supérieures des techniques médicales, les ISTEM. Pourquoi on a marginalisé l'ISTEM? Est-ce que l'ISTEM ne peut pas avoir les troisième cycle? Ça, c'est déjà une préoccupation. La toute dernière, le critère qu'il a parlé, il a seulement dit si on a cinq professeurs, on a déjà l'autorisation. Et si on peut avoir 5 ou 6 professeurs, c'est bien. Mais si on n'a pas la bibliothèque dans son institut, est-ce qu'on peut toujours bénéficier de cette critère?
Voilà, merci Petit Poisson. Merci beaucoup Petit Poisson. Est-ce que les systèmes sont concernés par le troisième cycle? Mais on peut avoir les professeurs, mais sans bibliothèque, peut-on avoir l'autorisation d'ouvrir le troisième cycle? On vous écoute rapidement, Théophile de Tananga, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Théophile Chamba.
Allez-y rapidement.
De ma session. C'est ce qui concerne les conditions d'accès, parce que la formation des ministres familiers, pour accéder, il faut avoir au moins une distinction sur le même des parcours. Je ne sais pas, la condition existe ou elle a été bannie.
Rapidement, oui.
Le deuxième volet, quel espoir on peut avoir, donc dès qu'on s'inscrit au titre de l'État, combien d'années on peut défendre son diplôme, son mémoire de DIA ou sa thèse. Et enfin, les frais à payer.
Merci beaucoup Théophile. On aurait eu beaucoup de temps pour décortiquer tout cela. Nous revenons à vous, professeur Pierre Kita. On ramasse un peu l'ensemble de ces préoccupations parce que là, nous n'avons que 3 minutes pour répondre. Combien de temps faudrait-il pour défendre son mémoire de DA, comme il a dit, les conditions d'accès et puis les frais à payer? Pourquoi les systèmes sont marginalisés et la préoccupation de notre auditeur sur la formation des journalistes. Voilà un peu tout cela dans 3 minutes, si vous pouvez ramasser et aussi profiter pour conclure l'émission.
Eh bien, je vais y aller aussi rapidement que possible. D'abord, voilà. Je voudrais rassurer notre ami Petit Poisson de Guimena, les systèmes ne sont pas marginalisés, bien au contraire. J'ai bien dit, les universités publiques ou privées, les ISP, les IST, et parmi les IST, il y a des
systèmes. Voilà.
Par exemple, je peux les citer, l'ISTEM de Kinshasa, l'ISTEM de Lubumbashi sont autorisés, ont déjà l'autorisation générale d'organiser les troisième
cycle.
Donc il n'y a pas de marginalisation.
Oui, voilà.
Et puisque c'est Petit Poisson qui a parlé également de bibliothèque, il a raison de le dire, de le souligner, et je l'avais déjà dit dans une réponse. Non, bien sûr, la condition de 5 professeur est la condition minimale pour avoir l'autorisation générale. Mais pour avoir l'autorisation spécifique, alors là, il y a un certain nombre de conditions, dont les conditions scientifiques minimales. Mais il est vrai que sans bibliothèque, il est difficile, bien que toutes les institutions sont en train de déployer un effort énorme pour améliorer leurs conditions scientifiques. Donc là, il n'a pas à s'inquiéter. Théophile de Kananga, ça je voudrais lui dire de manière tout à fait forte. La condition de distinction est maintenue. On ne pourra permettre à personne d'entamer les études du troisième cycle s'il n'a pas obtenu une distinction au second cycle.
Mm-hmm.
Ça, c'est clair.
Mm-hmm.
Et ça, c'est justement pour mettre fin à tous les abus que l'on a enregistrés.
Combien de temps faudrait-il?
D'après la réglementation qui est en train d'être mise aujourd'hui sur pied, on estime qu'un 2A doit pouvoir se défendre en 2 ans.
Mm-hmm.
2 ans. Et la thèse de doctorat doit pouvoir se défendre 3 ans plus tard.
Okay.
Donc, on peut penser que celui qui entame en 2011-2012 son 2A, il faut que 2 ans plus tard, il ait terminé son 2A.
Mm-hmm.
Il entre dans le cycle de l'enseignement en doctorat, il doit pouvoir soutenir sa thèse après 3 ans. On veut ainsi mettre fin à ce qu'on a constaté à l'université de Kinshasa. Il y a des gens qui ont mis 10 ans pour présenter un DEA. C'est un scandale.
Voilà. Et les frais, rapidement, ça peut se lever à combien?
Les frais seront déterminés par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire en temps nécessaire.
Voilà, je crois que nous avons essayé de ramasser toutes les préoccupations des auditeurs par rapport
à... Mais il y en a une, on a parlé des doléances. Est-ce que les doléances des anciens ont été satisfaites
pour que le niveau puisse avoir des garanties? Mais malheureusement...
On n'a plus de temps, malheureusement. Mmh. Je remercie.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Pierre Guita. Nous avons aussi Jean-Claude qui a dit ceci à son ami, qui a son diplôme d'État après 8 essais, mais aujourd'hui, il ne peut pas faire le doctorat en Belgique, on ne sait pas, il est allé il y a combien de temps. Voilà, merci à tous les auditeurs, merci à l'ensemble de ceux qui s'est passé dans l'émission. Nous vous disons merci, professeur, d'être venu. Nous allons nous retrouver le lundi pour une nouvelle émission. Vous savez, aujourd'hui, les professionnels de médias congolais organisent ici à Kinshasa une marche de colère réclamant la défense du député national Yves Kisombé, accusé d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit de la rédactrice de la radio-télévision par satellite. Et outre la défiance, les poursuites des médias exigent également plus de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions pendant cette période. Et la question pour l'émission de lundi, c'est comment faciliter aux journalistes l'exercice de leur travail pendant la période électorale. Vous pouvez vous inscrire à pa@radiocopie.net. Merci à toute l'équipe pour la production de cette émission. Merci pour l'ensemble du travail pendant la semaine. Au revoir et bon week-end à tous.
Il est 12h. Radio Okapi.
Belinda Bosuma pour les journalistes.
Okapi.